La Bibliothèque des sciences.
Eugenio Garin, le zodiaque de la vie, sous-titre « Polémiques astrologiques à la Renaissance » d'Eugenio Garin, Garine parfois, qui est un philosophe des sciences, un philosophe tout court peut-être. Son œuvre porte sur la Renaissance, il y aurait beaucoup à dire sur cette catégorie de Renaissance. Or, Eugenio Garin, qui est un très grand érudit, un très grand philologue, au sens où il connaît les textes, et sans doute celui qui, dans sa génération, en Italie et bien au-delà, dans une communauté qui était très internationalisée, a attiré l'attention sur ce qui devait être aussi regardé, lu, étudié, à savoir toute cette partie de la Renaissance associée à l'histoire des sciences et des savoirs, mais qui ne s'intégrait pas nécessairement dans ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le grand récit de la modernité. Puisque, et le titre, le zodiaque de la vie, polémique astrologique à la Renaissance, est de ce point de vue-là tout à fait emblématique, Garin lit avec attention toute cette tradition hermétique de textes de la Renaissance qui relisent une antiquité qu'on a dans la tradition historiographique, mais aussi tout au long de l'histoire, expurgée de ces dimensions plus irrationnelles, pour utiliser toute une série de termes qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, ce qui est tout à fait fondamental, c'est cette idée que les découpages entre le rationnel et l'irrationnel, le moderne et l'antique, la modernité et ce qui lui tourne le dos, eh bien, ce ne sont pas des découpages linéaires ou stables, comme en témoigne le statut des textes qui portent sur le ciel, sur les cieux, tout au long du XVIe siècle, dans un ensemble de traditions intellectuelles extrêmement riche, extrêmement érudite, voilà la tradition hermétique, la cabale, etc. Et dans ce petit livre qui a été traduit en français, il met l'accent de manière tout à fait lumineuse, si je puis dire, sur le caractère ambigu de ce qu'on appelle l'astronomie, qui est aussi encore de l'astrologie, qui est astronomie et astrologie tout à la fois, et qui du coup n'est pas encore inscrite dans le grand découpage science, religion, foi et raison, qui sont véritablement des antagonismes que le XVIe siècle ne connaît pas. Et j'en veux pour preuve ce que lui-même indique dans l'introduction de cette série de petits textes, à savoir la référence au grand historien des religions, Franz Cumont.
Présentant le premier volume, 1898, de ce précieux instrument de travail qu'est le Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, catalogue des manuscrits astrologiques grecs, Franz Cumont proposait une série d'observations importantes. Avant tout, il attirait l'attention sur l'énorme quantité de matériel astrologique qui dormait encore inexploré dans les bibliothèques négligées et méprisées. Il rappelait aussi que lorsqu'on veut comprendre les vicissitudes de la recherche de la vérité, il faut nécessairement tenir compte des erreurs, tout autant que des clarissima inventa. Cumont ne pensait pas seulement aux textes grecs, astrologiques et aussi magiques et alchimiques. Il voyait en transparence leur ascendance culturelle, égyptienne, chaldéenne, indienne, et leurs échos dans la tradition médiévale, arabe aussi bien que latine et byzantine.
Ce que cette introduction nous dit, c'est l'importance de ne pas penser avec nos catégories de sciences et de savoir ce qu'est la production de la pensée dans des périodes antérieures à la nôtre. Ce dont parle Garin, se référant à Cumont, comme c'est indiqué dans cet extrait, sont les traditions de pensée égyptienne, chaldéenne, indienne, c'est-à-dire situées dans des espaces culturels qui sont loin de se rabattre sur ce qu'on pourrait appeler tout simplement l'Europe de la Renaissance. Et c'est à ce titre que il me semble que nous devons faire ce travail de décentrement de nos pensées qui ne passe pas uniquement par l'exotisme du voyage, mais aussi par le décentrement de nos bibliothèques.